Je voudrais partir de l'idée que la terreur n'a pas frappé de manière uniforme toutes les régions et toutes les localités françaises en l'an 2, hein, c'est-à-dire 1793-1794. Il existe un prisme déformant de la compréhension de la terreur, qui est celle des régions de violence extrême. En fait, la compréhension de la terreur, on se la forme essentiellement à partir de ce qui s'est produit dans un certain nombre de régions, que sont l'ouest de la France, le midi de la France, la frontière du nord, celle de l'est, le pôle lyonnais et Paris. Or, il faut juste prendre conscience qu'un tiers de la France a semblé épargné ou presque épargné par cette grande violence politique. Voilà, donc c'est cette carte de Ronald Greer qui a été établie en 1953, qui a été réactualisée par Michel Vevel, qui vous montre bien que finalement, on a une vision très univoque, très uniforme de la terreur. Or, regardez, un certain nombre de départements ont connu pas du tout la même intensité de violence que ceux que j'ai précédemment cités. Alors moi, j'ai donc choisi de m'intéresser au département de l'Aisne, voilà, ce département qui a une forme de betterave, ce qui lui correspond très bien, puisque vous savez qu'il a été un des départements en pointe dans l'économie sucrière. J'ai choisi ce département de l'Aisne parce qu'à la fois, c'est un département qui m'intéressait, parce qu'en histoire, je m'intéresse au silence, je m'intéresse à l'échec. Et voilà, c'est un département où rien ne se serait en apparence passé. Rien, si ce n'est une révolution tranquille, sans excès de violence. Et donc cette situation apaisée du département de l'Aisne en révolution interroge, que recouvre ce rien apparent, sachant que le rien en politique n'existe pas? Que cache l'absence d'antagonisme spectaculaire dans un département donné? Est-ce que ça veut dire, est-ce à dire que les populations picardes, et a fortiori celles de l'Aisne, ont traversé avec un conformisme résigné la révolution, se pliant d'obéissance devant la loi et devant toutes les impulsions des différents régimes politiques qui se sont succédés de 1790 à 1795. Est-ce qu'il faut plutôt supposer que la société actionnaise ne souffrerait d'aucune tension interne en cette fin du XVIIIe siècle, au point d'unanimement adhérer à un nouvel ordre politique et social? Et donc, longtemps, l'apolitisme et le modérantisme, sans que l'on donne un contenu positif à cette notion, ont suffisé à expliquer cette particularité géopolitique, et je précise, particularité géopolitique, qui est un petit peu celle de toutes ces régions que Vevel appelait la France des plaines de grande culture, vous voyez, qui englobait quand même une partie de la Haute-Normandie, du centre de la France en particulier, et une partie de la Bourgogne, de la Champagne. Voilà, c'était cette grande France du conformisme politique. Alors, cet apolitisme existe-t-il? Qu'est-ce que le modérantisme? Pourquoi une société? Et donc, fondamentalement, la question que je me posais, c'est de comprendre pourquoi une société locale tient-elle encore ensemble quand ailleurs, dans d'autres départements, elle se disloque et elle se déchire. Et là, il me paraissait un laboratoire particulièrement intéressant parce que il est à l'interface de deux pôles de violence qui ont été le Nord-Pas-de-Calais et, ici, la ville de Paris. Donc, comment un département à l'interface de deux pôles de violence peut-il présenter un rien politique, c'est-à-dire une révolution tranquille sans excès de violence? Qu'est-ce que ça recouvre? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, du coup, je me suis dit que l'Aisne pouvait être un laboratoire privilégié des processus de régulation politique et sociale en période de trouble, tout en sachant que je voulais faire de ce département une espèce de terrain emblématique des autres départements de ce grand centre de la France, hein, qui va de la Champagne à la Haute-Normandie, jusqu'au Berry inclus. Première idée, la monarchie constitutionnelle ou la constitution d'un ordre notabilitaire entre 1790 et août 1792. Effectivement, sans paraphraser le conte dans Lampedusa, dans le Guépard, il faut que tout change pour rien qu'on ne change, c'est pas tout à fait le cas, mais je me suis intéressé à, dans un premier temps, à m'intéresser à quels sont les ressorts humains les assises humaines du pouvoir, du nouveau pouvoir politique et administratif qui naît avec la Révolution dans un département, puisque je rappelle, hein, première évidence, que le département est une structure administrative qui naît déjà avec la Révolution, que la Révolution réinvente complètement les pouvoirs locaux, avec donc un découpage en département, à la tête de chaque département, une administration départementale élue, au sein de chaque département, des districts, en général de 5 à 6, donc ici dans la ligne, il y en a 6, avec un chef-lieu de district, et enfin des administrations communales, avec cette révolution particulièrement importante dans l'histoire administrative française, c'est la révolution qui donne aux communautés rurales le statut de commune, statut communal qui n'était jusqu'alors que le propre des villes. La révolution met sur le même pied d'égalité juridique le village avec la ville. Et donc cela implique pour conséquence que chaque village puisse se doter d'une administration municipale élue. Je rappelle cette grande utopie de la Révolution, de fonder la souveraineté nationale, et au titre de la souveraineté nationale, tout pouvoir, religieux comme administratif, militaire comme politique, doit être élu. Je me suis aperçu, en faisant une analyse de la plupart des élus à tous les niveaux de pouvoir du département de l'Aisne dans les premières années de la Révolution, que se constituait un empire du milieu. Pourquoi, finalement, des gens qui vont apparaître comme des pré-notables avant l'heure des grands notables du début du XIXe siècle? D'abord, ça la tient aux règles électorales et aux modes de scrutin. Les règles électorales, je ne vais pas vous revenir, ça fait un petit peu cours de licence 1. Je vous rappelle que la Révolution française ne donne pas le droit de suffrage à tout le monde. Elle distingue entre les citoyens actifs et les citoyens passifs. Les citoyens actifs ont le droit de voter. Donc pour voter aux élections communales, il faut être un homme de plus de 25 ans et, comme vous le savez, acquitter au moins un impôt direct équivalent à 3 journées de travail. Puis elle crée une deuxième barrière qui est celle des éligibles. D'accord ? Donc là, il faut acquitter une semaine, un impôt direct correspondant à une semaine de travail pour pouvoir être élu aux administrations de district. Donc, évidemment, la règle électorale va favoriser la senior pars de la population. Mais plus pernicieux, alors. Pour comprendre ce mode de règle électorale, il y a longtemps eu un débat. Certains y ont vu une forme d'exclusion des plus pauvres. Moi, je vous invite plutôt à lire les ouvrages de Pierre Rosanvallon qui vous expliquent comment cette idée d'une seigneur pars vient de la physiocratie et comment elle s'appuie sur l'idée de la confiance et de la responsabilité. En gros, pour vous la faire simple, on ne peut pas confier le bien commun, les affaires de tous, à des gens qui n'arrivent pas eux-mêmes à gérer leurs propres affaires. Ou tout simplement, on ne peut pas confier le bien de tous à des gens qui sont dépendants, y compris dépendants économiques. L'idée, c'est, pour exercer les affaires de tous, il faut être indépendant, indépendant d'esprit. Donc, ce qui explique pourquoi les faillis, par exemple, ne sont pas des citoyens actifs, ce qui explique aussi pourquoi les domestiques ne sont pas des citoyens actifs. Ça expliquera d'ailleurs cette idée aussi pourquoi les femmes, longtemps, n'auront pas le droit de vote, puisqu'on les pensait ou soumises aux hommes, ou, à l'époque de la France radicale, soumises aux curés. Enfin, les règles, le mode de scrutin est aussi extrêmement pernicieux, éloigne les plus dépendants, puisque je vous rappelle qu'on vote en assemblée et que pour voter pour sa municipalité, ça peut prendre un dimanche entier. Et vous imaginerez donc par conséquent que lorsque les élections, comme souvent, se situent au mois d'août ou au mois de septembre, personne n'a une journée à perdre pour aller mettre son bulletin de vote, surtout en milieu rural. Bien, un tel règlement électoral ne pouvait faire que le jeu des élites traditionnelles dans les départements. Dans l'Aisne, il apparaît que 40% des assemblées primaires, les assemblées primaires sont celles qui sont chargées d'élire les administrateurs de districts et de départements, 40% des électeurs sont en fait des laboureurs et des grands fermiers. Ce qui pose un problème, hein, c'est les laboureurs et les grands fermiers représentent 40% des électeurs du département de l'Aisne, alors qu'ils ne représentent que 25% de la paysannerie axonnaise. Ils sont de loin le principal groupe qui va donc élire ses représentants au niveau des districts et du département, puisque le second groupe qui pèse le plus dans les assemblées primaires sont les marchands et les négociants, 17%, et les juristes, qui représentent entre 15 et 10% du corps électoral. Donc, sans surprise, eh bien, les laboureurs vont majoritairement porter les meilleurs des leurs, c'est-à-dire les grands fermiers, les fermiers et les notaires à la tête des districts. Vous avez donc un modèle septentrional de l'administrateur de district. Modèle septentrional, puisque Hervé Levers a montré que dans le Nord-Pas-de-Calais, eh bien, là aussi, les grands fermiers se retrouvent le plus souvent à la tête des administrations de district. Un tiers des administrateurs des districts sont issus du monde agricole, et en particulier de la fermocratie, contre un tiers des juristes, alors que la norme nationale établie par Melvin Edelstein, la norme nationale est à 42% des fonctions d'administrateur détenues par des juristes et 16% par des professionnels de l'agriculture. Donc là, vous voyez, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, on est plutôt aux deux tiers tenus par des notaires et des fermiers. Donc, on peut en déduire cette idée que les districts sont détenus par des ruraux. C'est pour eux un moyen de contrôler l'influence de la ville chef-lieu sur les campagnes. En ce sens, les ruraux ont accordé leur suffrage aux plus compétents et aux plus disponibles d'entre eux, les grands fermiers, laboureurs et les notaires. J'insiste, hein, en ces administrateurs s'incarne la victoire des campagnes sur les villes, mais aussi celle d'une certaine modération politique, j'y reviendrai. À la tête des départements, en revanche, la fermocratie, pardonnez-moi l'expression, s'éclipse, puisque les grands fermiers ne représentent qu'un quart des élus à la tête du département. En fait, je préfère parler d'une éclipse plutôt d'une éviction. L'éclipse requiert un processus volontaire de mise en retrait des grands fermiers. Les grands fermiers se retirent. Pourquoi ? Parce que comme les grands manufacturiers, ils n'ont ni le temps, ni les capacités juridiques, et encore moins la volonté de prendre le risque politique d'assumer les trop exposées fonctions d'administrateur départemental. Le critère de la capacité devient alors le critère primordial. Prime est donc donnée aux juristes pour l'exercice de ces fonctions départementales. Donc, que déduire de cette grammaire sociale du pouvoir modéré ? Eh bien, que se constitue un équilibre entre la ville et la campagne. Les urbains sont davantage représentés à la tête du département, mais les ruraux contrôlent les districts. Enfin, tous sont dotés d'une forte légitimité socio-économique. Ce sont des dominants socio-économiques, les grands fermiers, ou les juristes, ou les grands négociants. Mais tous, du fait de cette légitimité socio-économique, ont une capacité à l'intermédiation politique. Ils ont concrètement, ils disposent de forts réseaux, de Paris jusqu'au moindre des villages. Cette grammaire sociale d'un pouvoir modéré s'appuie sur une fabrication d'un imaginaire politique local. La compétence administrative des juristes et le pouvoir d'influence économique et sociale de la fermocratie n'expliquent pas tout. Leur légitimité auprès des citoyens, qu'ils soient passifs ou actifs, s'est aussi acquise à l'occasion de deux matrices intenses de la politisation dans ce département, qu'ont été le rejet de Paris et les luttes campalinistes pour l'obtention des chefs-lieux de district. J'insiste beaucoup, on a une vision de la formation des départements qui est celle d'une technocratie tout puissante. C'est-à-dire que les départements auraient été créés au mépris de la volonté des citoyens et donc au mépris d'un ancien régime qui respecterait les particularismes. En fait, l'exemple du département de l'Aisne vous montre que ce n'est absolument pas le cas. Ce département est extrêmement hétérogène et hétéroclite dans les territoires qu'il compose. Et cela est dû à la volonté des citoyens. Par exemple, le nord du département, si vous me permettez de revenir. Le nord du département, ici, Saint-Quentin. Saint-Quentin est beaucoup plus intégré à l'économie du Nord-Pas-de-Calais. Pourquoi ? Parce que Saint-Quentin est une grande ville manufacturière du textile, qui travaille le lin, comme sa voisine de Cambrai ici, ou celle de Valenciennes. Saint-Quentin, au moment de la formation des départements, a tout fait pour ne pas appartenir au département du Nord, craignant d'être marginalisé dans le nouveau territoire et donc d'être écrasé par ses rivales économiques de Cambrai et Valenciennes. Donc Saint-Quentin a accompli un certain nombre de démarches pour être annexé dans le futur département de l'Aisne. Il en va de même pour Château-Thierry qui craignait d'être sous l'influence de la ville voisine d'Épernay. Donc on a des consultations ont été organisées pour obtenir l'assentiment des populations pour la formation de ce département. Mais du coup, le deuxième enjeu a été la détermination des chefs-lieux de district. Et là, ça a été un important agent de politisation. Je vais vous développer un exemple là où l'enjeu a été le plus fort. Alors, il y a eu évidemment l'enjeu du chef-lieu de département, qui est de l'ancienne capitale de généralité du Soissonnais, Soissons, ou de Laon, qui n'était que le siège d'un évêché. Le siège d'un diocèse serait la capitale, mais plus intéressant me semble être le cas du district ici de Vervins, qui correspond à la région naturelle de la Thiérache, puisque auparavant, le siège du bailliage était la ville ducale de Guise. Vervins n'est pas grand-chose. Vervins n'est qu'un juste un petit bourg quand Guise est une ville. Or, en fait, simplement, dans la nouvelle carte, Guise est plutôt excentré. Et donc, en fait, vont se jouer, à force de consultation électorale, tout un enjeu dans le district pour savoir qui de Guise ou de Vervins sera le chef-lieu. Je vous en passe. Les scrutins sont tour à tour annulés. Mais en quoi est-ce là réellement intéressant ? C'est-à-dire que les chefs, enfin, ce qu'on va appeler le parti de Guise, un certain nombre de notables urbains de Guise vont tout faire pour rallier à leur cause les campagnes environnantes. Quand ceux de Guise vont essayer d'en faire plus ou moins autant, mais beaucoup moins bien. Se constitue donc, à l'occasion de ces consultations pour la détermination des chefs-lieux, de véritables pactes territoriaux, un petit peu à l'image de ce que Michel Cassan avait remarqué au lendemain de l'assassinat d'Henri IV. Et donc, des pactes territoriaux qui vont lier des villes, Guise et ses campagnes, Vervins et ses campagnes. Et ces pactes territoriaux, eh bien, vont évidemment utiliser un certain nombre d'arguments économiques, mais vont aussi énormément contribuer à politiser la question de la détermination des chefs-lieux. Par exemple, l'argument avancé par Vervins est que Vervins est une ville qui n'est pas une ville d'Ancien Régime. Vervins n'était rien sous l'Ancien Régime, quand Guise est une ville ducale, quand Guise est la ville du duc d'Orléans. Donc, faire le choix de Guise, c'est faire le choix de l'Ancien Régime. Faire le choix de Vervins, petit bourg crotté, c'est faire le choix d'un nouveau régime. C'est faire le choix de la Révolution. Et donc, vous allez avoir, comme ça, un discours politique. Donc, vous avez la récupération, si vous voyez, la récupération de la politisation nationale qui se fait à des fins localiste. Donc c'est en ça où on a des exemples où ça représente un bon exemple pour complètement invalider, me semble-t-il, les vieux schémas qui opposaient une haute politique, qui est en gros la politique nationale telle que nous la connaissons, faite d'enjeux idéologiques, à une basse politique de petite gestion des intérêts purement localistes. On voit bien que les premières années de la Révolution offrent de multiples points de convergence entre ces hautes et ces basses politiques pour probablement invalider ce modèle. Tout ça pour vous dire que en quoi est-ce important dans la genèse d'un pouvoir modéré ? Eh bien, on a là la rencontre dans ces conflits pour l'obtention des chefs-lieux entre une petite bourgeoisie urbaine et un peuple des campagnes. Et va donc se former un certain nombre de solidarités ville-campagne qui seront durables avec des clientèles pour un certain nombre de ces représentants urbains. Alors évidemment, c'est comme ça que commence la carrière d'un homme qui sera administrateur du département, puis législateur, puis conventionnel, puis un des hommes forts du directoire et un des préfets de l'Empire, qui n'est autre que Jean Debry. Jean Debry a commencé sa carrière comme le porte-parole des intérêts de Vervins. Et puis surtout, ces luttes campanilistes, elles se poursuivent aussi à Paris. Et donc, ça, c'est pour les gens des campagnes comprendre que les intérêts locaux, ça se défend aussi à Paris. C'est donc aussi, encore une fois, un autre moyen de séparer les deux niveaux de l'État, le niveau local, le niveau central. Eh bien, là, en 89-90, au moment de l'obtention des chefs-lieux de district, on a conscience que cette frontière est assez fictive. Le deuxième élément, c'est évidemment de l'imaginaire politique local, c'est la défiance envers Paris. Pourquoi défiance envers Paris ? Parce que l'Aisne, en tout cas pour toutes les districts, les quatre districts qui, les plus méridionaux, sont des districts d'open field et sont les terres nourricières de Paris. C'est-à-dire, ce sont les grandes terres à blé. Le blé est chargé sur les grandes rivières, l'Aisne, la Marne, l'Ourcq, à destination de Paris. Et donc, Paris est associé, évidemment, traditionnellement, au complot de famille. Paris est la ville qui vampirise les campagnes du département pour son propre compte. Et donc, la défiance envers Paris est une carte à jouer, par exemple. C'est aussi cette carte qu'a joué Laon, petite ville sans envergure, pour détrôner Soissons du chef-lieu de département. Pourquoi ? Parce que Soissons est un grand port céréalier. Et donc, Laon a joué la carte en disant, si vous choisissez Soissons, vous choisissez, encore une fois, le fait de nourrir Paris. Si vous choisissez Laon, vous choisissez une résistance aux appétits parisiens. Donc ces deux paramètres de l'imaginaire politique national ont donc profondément joué sur le choix d'un personnel politique local. La prime était donnée au niveau du district à une fermocratie pour sa capacité à défendre les intérêts des ruraux face aux chefs-lieux urbains. Une prime était donnée au niveau du département et de la députation à des juristes capables d'imposer une intermédiation réussie entre Paris et le local. En somme, ce sont les figures d'un dialogue, ville-campagne, local-national, qui ont toujours été privilégiées pour la réussite d'un gouvernement de la modération en révolution. Qu'est-ce que cela peut bien signifier que de gouverner en modéré ? La nation, la loi, le roi, voilà nos dieux politiques. Telle est la conclusion d'une longue adresse de félicitations que le département de l'Aisne a envoyée le 16 novembre 1791, au vertueux roi Louis XVI, 5 mois après la tentative de fuite avortée de ce dernier à Varennes. Une adresse de félicitations, pourquoi ? Mais pour le féliciter d'avoir accepté la Constitution, pour le féliciter d'avoir apposé son veto au décret de l'Assemblée nationale du 31 octobre qui s'opposait au retour des émigrés en France. Bref, toute l'attitude politique de l'administration actionnaise, du moins de l'autorité départementale jusqu'à celle des districts, se trouve en quelque sorte résumée en cette profession de foi. Elle pose la question de la pratique du modérantisme en politique et de ses apparentes mais solvables contradictions. Car il n'y a pas de contradiction majeure pour un pouvoir exécutif local à communier autour du culte de la loi et du roi, puisque le roi, finalement, n'est-il pas le détenteur du pouvoir exécutif au terme de la Constitution du 3 septembre 1791. Surtout, après 5 mois après sa fuite avortée à Varennes, féliciter le roi pour son acceptation de la Constitution et son refus de faire la guerre à l'émigration revient à souscrire au projet de terminer la Révolution. Féliciter le roi pour son veto apposé au décret de la législative contre les émigrés traduit autant le refus d'une fuite en avant dans le processus révolutionnaire que l'adhésion au projet royal d'une réconciliation nationale. Gouverner en modéré requiert donc un programme minimal, le rejet des extrêmes et la défense de l'ordre politique et social établi en 1789. Il implique une philosophie de l'action, le plus souvent la recherche de la concorde par les vertus de la prévention et du compromis, à défaut, et ça j'y reviendrai, par le recours à la force. Enfin, il possède une légitimité, le culte de la loi. Ce mode de gouvernement modéré apparaît dans toutes ses dimensions lors des principales crises qui secouent le département lors de l'année 1791. Alors, quelles sont ces crises? D'abord, la crise religieuse, la crise du serment constitutionnel. Vous me permettez de parfaire l'historique, je pense que c'est quand même maîtrisé. Quelle est l'attitude du département? Il est inflexible à l'égard des prêtres réfractaires. Donc, là-dessus, le département n'est pas contre-révolutionnaire. La troisième crise, c'est celle de la fuite de Varennes. Eh bien, très rapidement, les administrations départementales jouent la carte de la normalisation, c'est-à-dire sont sensibles aux arguments des feuillants, reprennent à leur compte la fiction feuillante comme quoi le roi n'aurait pas fui, mais il aurait été enlevé, et en profitent pour briser toutes les oppositions qui sont en train de surgir, notamment les oppositions jacobines. Et enfin, sur le terrain, dans le champ politique, économique et social, eh bien, c'est l'attitude de l'administration départementale et l'administration des districts face au risque de bacchanal qui surgissent à l'été 1791. Davantage que la culture du compromis ou la recherche du juste milieu, gouverner en modéré, c'est rechercher l'exercice de la puissance exécutive au service du maintien de l'ordre. C'est ce qui caractérise vraiment le mieux le gouvernement local des modérés. Ça n'est pas le juste milieu, ça n'est pas le compromis, c'est plutôt la défense à tout prix de l'ordre par l'exercice du pouvoir exécutif. De recherche de conciliation entre les parties, il n'y eut qu'en intention ou que de manière préventive. Ce qui intéresse l'administration locale, c'est défendre la loi, maintenir l'ordre, plus qu'une servile obéissance administrative. Il s'agit d'une démarche politique délibérément assumée de la part des administrations locales. En ce sens, les administrateurs élus de la monarchie constitutionnelle sont d'abord des hommes politiques locaux. Ils choisissent de faire appliquer la loi, de la maximaliser, de la minorer, au gré de leurs convictions et de leurs intérêts. Des hommes politiques locaux, certes, mais qui ont tous compris que l'État est bien plus efficient à exercer ses prérogatives quand le local est parfaitement intégré au national. Donc ça, c'est une de mes grandes idées, je ne suis pas la seule à la défendre, que le local n'est fort que lorsqu'il est intégré au national. En l'occurrence, je ne m'inscris pas dans le courant historiographique qui plaide une fracture irrémédiable, une frontière intérieure entre le local et le national. Alors, cette régulation politique et sociale établie au temps de la monarchie constitutionnelle, comment réagit-elle à l'épreuve de la terreur? L'entrée en République, qui se fait d'août à septembre 1792, puis le basculement dans la terreur, sont des opportunités de redéfinition des paramètres du lien politique et social. La terreur de l'an 2 représente le moment de violence paroxystique de la Révolution, celui précisément où les liens politiques et sociaux se défont et où la guerre civile éclate. Donc comment les pouvoirs publics s'adaptent-ils à ce tournant? Eh bien tout d'abord par un véritable effort pour contenir le changement. Le lendemain du 10 août, par le décret du 11 août 1792, le suffrage universel masculin est octroyé. C'est donc une profonde révolution politique en perspective. Pourtant, malgré cette obtention du droit de vote à tous les citoyens masculins, les premières élections de la République, c'est-à-dire les assemblées primaires, vous savez, on se réunit au chef-lieu de canton pour élire les administrateurs de district ou pour élire vos représentants qui iront siéger à l'Assemblée électorale départementale, qui, eux, éliront les députés et l'administration. Donc ce n'est pas un raz-de-marée au scrutin des assemblées primaires du 26 août 1792. Vous comprenez pourquoi. Le 26 août 1792, on a autre chose à faire que de se rendre au chef-lieu de canton. Il y a la moisson qui commence et on a autre chose à faire que de s'y rendre à pied et d'y patienter une journée pour voter en assemblée. Donc 17 à 18% de votants. Mais surtout, qu'est-ce que l'on constate ? À l'Assemblée électorale du département, les radicaux, qu'on qualifiera un peu abusivement de jacobins, font un coup de force électoral et beaucoup d'entre eux se font élire conventionnels. Ce sera par exemple le cas de Saint-Just ou de Condorcet pour les plus célèbres d'entre eux. Quelques modérés, Belin, Loisel, Fiquet, se feront à leur tour élire. Surtout, en toute illégalité, les modérés en toute illégalité, hein, je précise, les radicaux font élire une administration départementale pour renverser la précédente qui s'était compromise dans le soutien au roi. Donc, on pourrait penser qu'une révolution politique va affecter le département. C'est présumé de la longue patience des modérés, puisque les modérés prennent leur revanche lors des élections des administrations de district en octobre 1792. Aucun des nouveaux élus à la tête des districts ne bénéficie d'une réputation de leader jacobin radical, voire même, bon nombre d'anciens administrateurs de la monarchie constitutionnelle sont réélus. Comme sous la monarchie constitutionnelle, la majorité des administrateurs des districts sont des ruraux. Les urbains ne représentent à peu près que 40% des administrateurs. Donc, les districts sont toujours aux mains des ruraux. Pourtant, on observe une relative démocratisation, ce qui confirme les analyses de Guénifet concernant le renouvellement des personnels à la tête des districts. Pourquoi ? On assiste à la tête des districts à une percée de l'atelier et de l'auberge au détriment de l'étude notariale et de la grande exploitation agricole. Pour autant, cessons de river l'identité socio-professionnelle à l'identité politique. Le cas actionné prouve bien que l'accession toute relative de nouvelles catégories socio-professionnelles à la tête du département ou des districts n'altère en rien le projet modéré, à savoir terminer la révolution avec l'avènement du régime républicain et le triomphe des valeurs de 1789 et 92. On observe ce même modérantisme lors des premières élections municipales de la République en novembre 1792. Apparemment, se produit une démocratisation. Pourquoi ? Parce que le pouvoir municipal cesse, avec l'avènement de la République, d'être l'apanage des hommes les plus riches du village. Les plus riches contribuables disparaissent de l'exécutif communal, c'est-à-dire des fonctions de maire et d'officiers municipaux. Les grands fermiers, par exemple, qui constituaient jusqu'à 32% des maires et officiers municipaux en 1790, n'en représentent plus que 10% en 1792. Ce retrait des grands fermiers semble profiter essentiellement aux paysans dépendants, qui, eux, font une vraie progression. 8% d'entre eux étaient maires ou officiers municipaux en 1791. Ils sont à peu près 17,5% en 1792. Donc l'avènement du suffrage universel se serait accompagné dans les communes axonaises rurales d'un véritable processus de démocratisation du pouvoir municipal, avec une promotion politique des petits et un recul de la fermocratie. Mais je considère que cette démocratisation n'est qu'apparente. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit en fait d'une stratégie délibérée des grands fermiers de se retirer de l'exécutif communal, c'est-à-dire des fonctions de maire et d'officiers municipaux. En fait, il s'agit d'un retrait. Pourquoi ? Parce que ce sont des fonctions exposées. Certes, ce sont des fonctions symboliquement prestigieuses, mais elles sont politiquement exposées. En revanche, les grands fermiers ont compris qu'ils pouvaient rester présents en investissant le deuxième corps de la municipalité, qui est le corps des notables. Donc, ils ne sont ni maires ni officiers municipaux, mais ils sont notables. Le maire, si vous voulez, le maire et les officiers municipaux forment ce qu'on appelle le corps municipal, qui est la structure permanente des municipalités. Les notables, avec les officiers municipaux, forment ce qu'on appelle le conseil général, qui, lui, ne se réunit que pour les plus grandes occasions, c'est-à-dire les plus grands débats. Et quels sont les grands débats les plus sensibles ? Eh bien, notamment les débats sur les questions agraires, et en particulier la question des biens communaux. Donc les grands fermiers se retirent de l'exécutif communal, mais restent présents dans cette instance délibérative qui ne se réunit que pour les enjeux les plus importants. Enfin, ne pourrait-on pas soutenir aussi que la promotion importante des manœuvriers au pouvoir municipal conforte de manière indirecte le pouvoir des grands fermiers au village ? Pourquoi ? À la différence des laboureurs indépendants, la capacité des paysans les plus petits, la capacité des paysans les plus économiquement dépendants à s'émanciper politiquement ne va pas de soi. Ils sont trop insérés dans un faisceau de liens de domination pour s'en délier facilement. Les manœuvriers forment la clientèle des obligés économiques des exploitants agricoles les plus importants des villages. Nulle survie ne leur est permise sans un travail salarié auprès des fermiers. Nul espoir d'amélioration de leur exploitation n'est envisageable sans le prêt du matériel agricole du fermier. Alors combien d'entre eux Combien d'entre eux devenus maires ou adjoints municipaux auront les moyens matériels et intellectuels d'encourir le risque de briser ces chaînes de dépendance économique pour humer l'ère de la liberté ? Faut-il alors voir dans le manœuvrier devenu maire ou officier municipal de la municipalité l'homme de main du fermier ou ce contradicteur politique ? Vous aurez compris que moi, je plaide plutôt pour le premier cas. Mais, encore une fois, la réponse dépendra pour l'essentiel des configurations politiques propres à chaque commune. Bref, les pouvoirs locaux sont acquis à la préservation de l'ordre, mais désormais investis d'une forte légitimité démocratique et sans présenter de rupture majeure avec leurs prédécesseurs. Ils sont capables d'assurer le gouvernement local dans son dialogue constructif avec le pouvoir central de l'État, même lorsque celui-ci prend les formes de l'exception politique, comme à l'automne 1793. Et donc, ce système des pouvoirs locaux, avec ses représentants, va être en mesure de réussir le pari d'une terreur maîtrisée et régulée à l'échelon local. Pour un certain nombre de départements français que je vous ai présentés tout à l'heure, on a souvent parlé de terreur douce, bel oxymore, ou de terreur modérée, pour qualifier dans ces régions l'existence d'une terreur sans excès et quasiment jamais sanglante. Une terreur si douce qu'elle en aurait même été invisible, au point qu'on a pu parfois en contester la réalité. Or, pour moi, dans ces départements, la terreur ne fut ni douce ni invisible, mais plutôt maîtrisée et régulée par les deux piliers de l'État ordinaire que sont les municipalités rurales et plus encore les notabilités politiques à la tête des pouvoirs locaux. Alors, comment ont fonctionné les mécanismes de la régulation terroriste ? D'abord, par un gouvernement local polymorphe au service d'une cause inchangée, la préservation de l'ordre général. Il faut cesser de voir l'État comme un monolithe, et a fortiori, eh bien, la dimension locale de l'État comme, elle aussi, monolithique. Plusieurs configurations de gouvernement local se sont succédées entre 1792 et 1793. Première forme, de septembre 92 à juin 1793, le système des pouvoirs locaux ordinaires, c'est-à-dire le système qui a été inventé en 1789-90, hein, avec son administration départementale, ses administrations de district, ses municipalités communales, urbaines comme rurales. À partir de juin 1793 jusqu'au mois d'octobre 1793, eh bien, dans l'Aisne, on assiste à l'invention locale d'un état d'exception. J'insiste, invention locale. Ça n'est pas le comité de salut public. Ça n'est pas la convention qui impose un régime d'exception. Ce sont les administrateurs des pouvoirs locaux ordinaires qui décident presque eux-mêmes de se saborder leur système pour répondre aux nouveaux défis à la crise multiforme de l'été 1793. Concrètement, en quoi cette invention locale d'un état d'exception a-t-elle consisté ? Eh bien, d'abord, la figure du procureur général syndic, c'est-à-dire l'homme qui représente l'État avec cette ambiguïté fondamentale d'être un représentant élu, d'accord ? Donc, il représente l'État, il surveille la marche des administrations, mais il est lui-même élu. Donc, vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui est un peu entravé dans l'exercice de sa fonction entre la légitimité et son sens du devoir à l'État, mais aussi la légitimité des populations locales qui l'ont élu. Le procureur général syndic, c'est-à-dire l'homme qui surveille la marche de l'administration départementale, eh bien, se voit confier les pleins pouvoirs administratifs par l'administration départementale. Pourquoi ? Parce que dans le département de l'Aisne, eh bien, la crise dite fédéraliste, je n'aime pas ce mot, je préfère dire comme si les Girondins étaient des fédéralistes. On sait très bien maintenant qu'ils étaient plus centralisateurs sur certains aspects que les Montagnards. Vous connaissez un camp, c'est soulevé. Eh bien, dans l'Aisne, la principale ville du département, Saint-Quentin, se soulève. La députation de l'Aisne appelle, à l'exception notable de Saint-Just, hein, mais appelle les Axonais à se soulever pour protester contre la nouvelle convention dominée par les Montagnards. Eh bien, que va donc et l'épicentre de cette contestation fédéraliste, c'est la ville de Saint-Quentin. Et là, c'est un coup de génie. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, cette rébellion fédéraliste en Picardie qui a lieu à la fois dans la Somme, mais aussi dans l'Aisne, a complètement disparu des radars de l'histoire de l'insurrection fédéraliste. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir ici dans l'Aisne une excellente gestion de la crise par l'administration départementale qui a confié les pleins pouvoirs à son procureur général syndic qui pourtant, lui, n'est pas un modéré. Mais il va s'attacher à gérer cette crise à un niveau strictement local. Alors comment ? Eh bien d'abord en s'appuyant sur le district de Saint-Quentin. Je vous l'ai dit, le district, ce sont des ruraux. Donc les ruraux vont être effrayés par un basculement dans la sédition. Et les grands fermiers, dont un certain Fouquier, qui n'est autre que l'oncle de Fouquier-Tinville, hein. Fouquier-Tinville est le rejeton d'une dynastie de fermocrates, ces gens-là vont, en accord avec le procureur général syndic du département, tout faire pour étouffer la révolte fédéraliste à Saint-Quentin. Et, d'autre part, ils vont tous être entièrement d'accord pour intercepter les courriers qui partent vers la Convention. C'est-à-dire qu'un procureur général syndic du département qui est pour la Convention, qui est lui-même montagnard, va tout faire pour que Paris ne soit pas informé. Pourquoi ? De manière à éviter à ce que le département, que Paris ne réagisse, n'envoie des troupes et que le département ne sombre dans la violence. Il y a vraiment cette volonté de maintenir un lien politique et social au-delà des identités politiques des uns et des autres. Toujours est-il que cet état d'exception, eh bien, c'est une concentration des pouvoirs administratifs dans les mains d'un seul homme, le procureur général syndic. Et elle correspond aussi à une absence de l'État, absence voulue. En juin 1993, lors de la révolte fédéraliste de Saint-Quentin, mais aussi absence subie. Lorsque le département est attaqué à la fin du mois d'août, hein, le nord du département est frontalier avec les Pays-Bas autrichiens, et donc les Autrichiens commencent à faire des razzias, pillent et brûlent un certain nombre de villages, et là, le procureur général syndic appelle l'armée à l'aide. L'armée ne vient pas, puisque de toute façon, elle se concentre à l'époque, comme vous le savez, autour de Maubeuge et du Quesnoy, et surtout autour de Dunkerque. Hein, ça sera la grande bataille d'Onchot le 2-3 septembre 1993. Donc, déjà, il y a déjà une trouée qui correspond presque aux Ardennes. Il y a une espèce de trouée où l'armée française n'est pas. Donc, que va faire ce procureur général syndic ? Eh bien, il va lever une milice citoyenne dans le département et se porter lui-même au front. Vous voyez, la confusion des pouvoirs qui s'opère, même entre le militaire et l'administratif, est tout simplement un pouvoir local qui prend des initiatives qui pourtant devraient émaner du pouvoir central. Donc j'insiste bien sur cette invention locale de l'exception traduit essentiellement les attentes insatisfaites d'un État plus interventionniste. Et c'est un succès d'année parce que le fonctionnement ordinaire des pouvoirs locaux, tel qu'il a été inventé en 1790, ne permet plus de prendre en compte la totalité des missions qui lui incombent en période de crise, comme en cet été 1793. On ne peut donc plus tenir l'exception comme un processus unilatéral imposé par le pouvoir central à une société locale. L'exception n'est pas un processus unilatéral de réduction des libertés locales imposées par le pouvoir central jacobin à des pouvoirs locaux qui n'en seraient qu'en position de subir. L'instauration de l'état d'exception dans ce département répond d'abord à une demande locale, celle du « protégez-nous ». La réponse arrive à partir du mois d'octobre, entre octobre et décembre, avec cette fois la première imposition au département d'une exception, d'un état d'exception inventé par le pouvoir central. Cette première forme d'exception repose sur la dualité d'une gouvernance entre les représentants du peuple en mission et l'administration départementale. Aux représentants du peuple, le pouvoir décisionnel. À l'administration départementale, le pouvoir exécutif. Sous leur égide, le système des pouvoirs locaux en crise depuis le mois de juin 1793 est régénéré. C'est-à-dire qu'en gros, les personnels sont, pardonnez-moi l'expression, sont virés et remplacés par d'autres. Mais vous verrez, c'est du trompe-l'œil. Les lois sont intégralement appliquées, à commencer par les plus terroristes d'entre elles, comme les mesures contre les suspects. C'est à cette époque que qu'on procède aux grandes vagues d'arrestations dans le département. Au crédit de ce premier état d'exception, dont le principe fut de faire fonctionner l'intégralité du système des pouvoirs locaux inventé en 1790-91, sous la direction cette fois des agents de l'État central, que sont les représentants en mission, peuvent être portés nombre de réussites. Quelle réussite ? Eh bien, les exigences du salut public ont été accomplies dans le département de l'Aisne. Lever des hommes, lever des chevaux pour la guerre. Surtout, la principale réussite, c'est d'avoir réussi l'inscription des mouvements collectifs, encore violents quelques mois plus tôt. On pense par exemple à la révolte saint-quentinoise. Eh bien, ils ont réussi à inscrire ces mouvements collectifs dans le jeu des institutions. Comment ? Eh bien, en favorisant la création, ça c'est tous les travaux de Jacques Bernet, hein, en favorisant l'éclosion de la sociabilité politique dans le département. D'une certaine façon, ce premier état d'exception est parvenu à une régularisation des liens politiques et sociaux. Quatrième, seconde forme d'état d'exception dans l'Aisne, eh bien, ce qu'on appelle le gouvernement révolutionnaire qui a été fondé par les lois du 14 primaire en deux, qui, pour faire simple, balaie complètement l'organisation du système des pouvoirs locaux mis en place en 1790. Pourquoi tout ce système est balayé ? Pour accélérer le processus de centralisation. Parce que les conventionnels montagnards estiment que les municipalités et les districts, eh bien, sont des organes de résistance à l'application de la loi. Sauf que, mauvais calcul, dans le département de l'Aisne, eh bien, en fait, en essayant de casser le pouvoir des communes, en éliminant le procureur général syndic et l'administration départementale, eh bien, le pouvoir central de l'État s'est privé de ses meilleurs courroies de transmission locale. En confiant l'essentiel des responsabilités aux représentants en mission, eh bien, il a fragilisé la prise de décision. Pourquoi ? Parce que dans le département de l'Aisne, tout aurait été simple s'il n'y eut eu qu'un seul représentant en mission. Or, il y eut plusieurs représentants en mission qui sont entrés dans des logiques concurrentielles. Donc, d'une certaine façon, la multiplication des pouvoirs décisionnaires a abouti à leur annihilation. Et d'une certaine façon, eh bien, ce qui devait être un renforcement de la centralisation a complètement provoqué une perturbation des pouvoirs et une certaine vacance du pouvoir central. Ce qui fait que ce qui devait renforcer la terreur a permis au département de l'Aisne et à beaucoup d'autres de ces départements de sortir précocement de la terreur. En germinal, la terreur n'est plus qu'un souvenir dans le département de l'Aisne. Elle n'aura duré que 3 à 4 mois. Mais surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est que la régulation politique et sociale à l'épreuve de la terreur est particulièrement réussie par la puissance du fait communal en milieu rural. L'historien languedocien Georges Fournier s'était demandé si le village est-il, en dehors de toute expression politique véritable, l'obstacle sur lequel vient buter en fin de course la volonté du comité de salut public. La réponse est tout en ambivalence, car si certaines impulsions du pouvoir central sont restées lettre morte dans les villages, d'autres, en revanche, ont été répercutés avec succès. Non, vraiment, j'insiste bien, pour moi, il n'y a pas de frontière intérieure, il n'y a pas de coupure. Il n'y a, ce en quoi je reprends à mon compte beaucoup de travaux de la sociologie des organisations, de la sociologie systématique, les travaux de gens comme Grémion, comme Crozier. En fait, il y a constamment négociation et aménagement. Les municipalités vont prendre dans le dispositif législatif ce qu'elles veulent bien prendre, et vous allez voir, vous allez avoir une véritable logique d'une économie de la terreur, c'est-à-dire d'un échange où on prend des choses et on en refuse d'autres. Toujours est-il que le village, eh bien, le village sous la terreur reste aux yeux des villageois l'instance légitime face aux dispositifs terroristes que sont les comités de surveillance et les sociétés populaires. Le pouvoir central avait voulu casser le pouvoir des municipalités communales rurales. Et il avait notamment misé sur l'idée d'un double pouvoir communal qui serait partagé entre les municipalités et ce dispositif terroriste des comités de surveillance et des sociétés populaires. En fait, ce dispositif n'a jamais fonctionné dans le milieu rural axonais. Un exemple, les sociétés populaires rurales. Seulement 2 à 3% des communes rurales du département de l'Aisne ont été dotées d'une société populaire au moment de leur apogée, 2 ou 3%. C'est ridicule. Les comités de surveillance. Alors là, je ne peux pas utiliser le même critère parce que la loi du 14 primaire en 2 les rend obligatoires dans toutes les communes. En revanche, donc il y en a partout. Maintenant, en fait, je vais m'apercevoir qu'il y en a partout, mais ce sont essentiellement une existence de papier. Ils existent sur le papier, mais dans les faits, je n'ai aucun signe de leur action, au moins dans les villages. Et lorsqu'ils existent, lorsqu'ils fonctionnent, rarement ils sont en mesure de servir de contre-pouvoir à la municipalité. Au contraire, ils sont le plus souvent inféodés aux municipalités. Je vous donne quelques cas. Un comité de surveillance se compose toujours de 12 membres. Eh bien, dans un village de tirage, sur 12 membres du comité, 5 appartiennent à la municipalité, dont le maire et le procureur syndic. Et il s'agirait bien d'une caractéristique des régions de plaine de grande culture. Dans l'Île-de-France étudiée par Serge Blanqui ou la Haute-Normandie par Daniel Pinguet, comme en Picardie, tous sont d'accord pour dire que les comités de surveillance sont actifs dans les villes et que dans les villages, ils ont simplement épousé les relations locales sans provoquer de bouleversement politique. Le projet d'éclatement du pouvoir communal est donc mis en échec. Les pratiques des municipalités et des ruraux l'ont donc déjoué. Mieux, on assiste à cette période, au contraire, à un regain de la vitalité démocratique municipale et communale. Qu'est-ce qui me permet de le dire ? Eh bien, tout d'abord, l'analyse de l'activité des municipalités. On n'a jamais autant délibéré et pris de décisions dans les villages ruraux axonnés qu'au cœur de la terreur, c'est-à-dire au second semestre 1793 et au premier semestre 1794. Enfin, jamais les assemblées générales des habitants n'ont été autant convoquées que lors de ces mois de terreur. Alors, ça n'est pas complètement au hasard. Ces assemblées générales sont notamment convoquées parce que se pose la question rendue possible du partage des communaux depuis la loi du 10 juin 1793. Et la loi stipulait que la question ne devait pas être gérée par les municipalités, mais par les assemblées générales des habitants. Régulation politique et sociale réussie à l'épreuve de la terreur. Pourquoi ? Parce que s'instaure à tous les échelons des pouvoirs locaux une véritable économie de la terreur. En fait, l'enjeu est de sélectionner, d'aménager les directives du pouvoir central pour les appliquer localement. Il n'y a pas de réduction des communes rurales à une obéissance aveugle aux directives du pouvoir central. Vous avez plutôt la mise en œuvre d'une contrainte négociée entre les pouvoirs locaux et le pouvoir central. C'est-à-dire, les municipalités acceptent d'exécuter certaines mesures du pouvoir central et en refusent d'autres. Alors, l'exemple le plus typique dans ce département sur la frontière, c'est le succès rencontré par toutes les mesures de défense nationale. La levée des 300 000 hommes décidée par le décret du 24 février 1793 s'est avérée, et c'est rare en France, s'est avérée un succès dans ce département. Au mois de juillet, le contingent est levé et il est parti au front. La levée des chevaux, organisée par le représentant en mission Bollé, en conformité à l'arrêté de la Convention nationale du 8 octobre 1793, et là aussi un succès. Le département de l'Aisne devait livrer 1206 chevaux pour le 1er novembre 1793. Le 11 novembre 1793, il en livre 1500, soit presque 300 têtes de plus que le quota qui lui était demandé. Mais en retour, voyez, donc succès d'un certain nombre de mesures de salut public, mais en retour, libre choix de ne pas appliquer les mesures qui ont trait à la culture, au champ du religieux, notamment ce qu'on appelle la déchristianisation, ou les mesures d'atteinte aux personnes. Par exemple, ces communes ont toujours soulevé des résistances à l'application de ces mesures. Prenons le cas de la commune d'Amblony dans le Soissonnais. À Amblony, le comité de surveillance, la micro-société politique locale, et la municipalité, tous confondus, se réunissent à l'unisson dans l'église paroissiale pour y proclamer, le 24 novembre 1793, leur commune volonté, je cite, « de vivre et mourir en aussi bon catholique que républicain », et donc, unanimement, de s'opposer aux mesures déchristianisatrices impulsées par le directoire du département. Vous voyez, cela vous prouve, d'une part, combien les contre-pouvoirs inventés que sont les comités de surveillance et les sociétés politiques n'en sont absolument pas face aux municipalités, et de l'autre, combien on est dans cette économie de la terreur, celle d'une terreur qui est négociée à l'échelon local. Donc finalement, vous voyez, pas plus et pas moins que sous l'Ancien Régime, eh bien, on a la perpétuation d'une culture du compromis en ce qui concerne les relations entre l'État central et les communautés, même en période de conflictualité. Vous avez donc une culture de la négociation permanente par le truchement de médiateurs locaux qui ont compris que la vitalité du local ne pouvait réussir que grâce à son insertion dans le national. Quelques éléments donc de conclusion. Vous aurez donc compris que je suis contre une représentation de l'État monolithique et centralisateur. Autrement dit, pour moi, une étude de l'État, ce n'est pas une étude du nombre de fonctionnaires. C'est plutôt une étude de l'État, c'est plutôt un ensemble interrelationnel qu'il faut étudier. C'est le refus de considérer l'existence d'une frontière intérieure entre local et national. Donc oui, je m'inscris en porte-à-faux contre des travaux qui s'appellent des sociétés contre l'État, que ce soit même des travaux prestigieux d'anthropologues ou des travaux d'historiens. Je préfère reprendre et faire mienne ce principe de Pierre Rosanvallon, comme quoi l'État n'existe que par rapport à la société. Et c'est ce qui m'a intéressé. L'État comme interface. Et donc, à ce titre, ce qui m'intéressait a donc consisté à porter l'attention sur les modes de gouvernement du local par l'État, tout en considérant bien que le système local, l'administration locale, c'est l'État, c'est le niveau local de l'État. J'entends réhabiliter l'intermédiation politique des capacités socio-culturelles en montrant que cette intermédiation politique, elle est réussie précisément parce qu'elle s'appuie sur leur puissance socio-économique et culturelle. Et avant-dernier point, la terreur m'apparaît comme une absence d'État dans ses dimensions locales. Pourquoi ? Parce que l'intensité et la virulence de la terreur sont intimement corrélées au pouvoir local de l'État. Là où l'État échoue à être présent, la violence se déchaîne. Là où l'État est encore présent, par l'intermédiaire du système local et des notabilités, eh bien, elle est régulée. Ce fut le cas dans l'Aisne, comme dans beaucoup de départements de ce grand centre de la France. Néanmoins, une telle hypothèse implique de renoncer à la définition traditionnelle weberienne de l'État comme force coercitive, détentrice du monopole de la violence légitime, au profit d'une compréhension renouvelée, plus dynamique, d'un État comme instance de négociation construite sur plusieurs échelles, du local au national, ce qui est donc un peu plus celle d'Émile Durkheim. Merci.